Chers auditeurs et chères auditrices, nous arrivons à l'étude numéro 13 de la série Le Salut. Pardon. Le titre pour aujourd'hui sera « Donne-moi le petit livre ». Chers amis, nous allons prendre un verset un peu inhabituel qui se trouve dans Apocalypse, au chapitre 10, verset 9. Là, il est dit « Je m'avançais vers l'ange et le priais de me donner le petit livre. Il me dit « Prends et mange-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il aura la douceur du miel. » Ce jour nous trouve rempli d'espoir et d'impatience, car Dieu va accomplir de grandes choses. Le temps est venu et bien des choses vont être réalisées. Nous sommes bénis d'être en vie. L'ange descendit du ciel. Le ciel est donc un lieu de réalité. Il est vêtu d'un nuage au-dessus de sa tête. Il y a un arc-en-ciel. Son visage était lumineux comme le soleil, ainsi que l'était celui de Moïse lorsqu'il revint du Sinaï après sa rencontre avec Dieu et avec ses pieds qui brillaient telles des colonnes de feu. C'est une description de Dieu brillant de toute sa gloire. Il avait aussi à la main un petit livre qu'il tenait ouvert. Et c'est ce que l'on trouve dans le livre du Seigneur. Notez Apocalypse chapitre 10, versets 1 et 2. Et Saint Jean dit encore dans Apocalypse chapitre 10, verset 8, il nous montre que tout est chargé pour aller prendre le petit livre. Il fallait donc que quelqu'un prenne le petit livre que l'ange tenait ouvert. Et l'ange a dit à l'apôtre Jean, « Prends, et mange-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il aura la douceur du miel. » Le message est donc doux parmi les fidèles, mais bientôt, il devient amer lorsqu'il est donné à ceux qui ne croient pas, qui rejettent la profondeur de la parole de Dieu. Beaucoup croient au message de jeûne, pourquoi pas de jeûner de temps en temps. Il y en a même qui ne sont pas du tout enclins à s'intéresser au Seigneur, mais c'est pour leur santé. Et donc, une chose qui leur manque, c'est la prière. Alors donc, nous pouvons jeûner accompagné de la prière. Ça sera totalement autre chose. Ce sera une puissance. Mais malgré tout cela, néanmoins, il y a, voyez-vous, pas toujours, et c'est malheureux, mais c'est comme ça, il n'y a pas toujours le parfum et le feu du Saint-Esprit dans le jeûne et la prière. Alors, ils reculent et ils échouent à recevoir la sainte parole de la plénitude du Saint-Esprit. Ils préféreraient se contenter que d'une seule partie de la sainte parole, celle qui leur plaît le mieux, telle que l'amour de Dieu. Tout ce que nous avions eu dans le passé, ce que nous avons possédé dans le passé, concernant la Sainte Parole, n'était que partiel. La connaissance du bien et du mal, c'était tout ce que la plupart connaissent. Quand ce qui est parfait est là, ce qui est partiel disparaît. Les langues se taisent, la prophétie cesse, mais une chose qui pour sûr perdure, c'est le feu sacré de Dieu. Notre Dieu est un feu qui brûle. Il est un Dieu de feu. Et c'est ce qui s'est manifesté dans, on peut dire, sans aucun doute, quand le buisson était en feu, rappelez-vous, mais il ne se consumait pas, ce buisson. Et là, nous avons vu Moïse devant ce buisson qui était en feu. Et sa curiosité faisait tout vérifier. Et Dieu parla par l'intermédiaire du buisson. Exode chapitre 3, verset 5. Il dit, n'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds. Car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il se manifesta aussi aux enfants hébreux dans un four ardent. Pas un cheveu ne fut roussi, et leurs vêtements ne sentaient même pas la fumée, car Dieu était avec eux, il les protégeait, et il les fit sortir sains et saufs. L'homme savait même que la quatrième personne, qu'elle ressemblait au Fils de Dieu. Et c'est Nebuchadnezzar, on dit aussi Nebuchadnezzar, qui savait cela. Il savait même que c'était là une manifestation surnaturelle dont seul Dieu était capable. Le Saint-Esprit dit, « Va et prends le petit livre, mange-le. » Et nous avons besoin de la sainte parole de Dieu pour pouvoir résister. Le dernier mot revient à la sainte parole de Dieu, toujours. N'oublions jamais cela. Nous devons donc croire, ce qu'il a dit, et nous devons agir en fonction. L'action est plus forte que les mots. Cela est possible si vous agissez selon la sainte parole de Dieu. Nous devons emplir nos entrailles de sa sainte parole. Nous savons que sa sainte parole est infaillible. Ce message doit être délivré à toutes les nations, langues et rois. La plupart des gens qui se déclarent de Dieu ne savent que très peu quand il s'agit de croire vraiment, vraiment en Dieu. Nous sommes prompts à parler avec notre langue, mais nous croyons, ou si vous voulez, je pose la question, croyez-vous vraiment ce que l'apôtre Jean dit dans le chapitre 6, croyez-vous vraiment ce qu'il a dit? Beaucoup ont dit que c'était la rude parole et ont totalement cessé de faire route avec lui. C'était trop rude. Saint Jean, chapitre 6, versets 60 et 66. Après elle, bien sûr, après l'avoir entendu cette parole, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire « Cette parole, elle n'est pas seulement rude, mais elle est dure. Qui peut l'écouter ?» Et dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Prenons Jérémie, chapitre 32, verset 33. Il est dit « Il me présente la nuque, non la face, bien que je les ai instruits inlassablement. Ils n'écoutent pas et ils n'acceptent pas la leçon. » Beaucoup parmi ceux qui ont écouté et certains même ont reçu une partie des révélations, ils ont tourné le dos à la révélation du Saint-Esprit du corps de Jésus-Christ. Ils n'ont reçu qu'une partie et ils reprirent l'ancien chemin même après avoir fait l'expérience du feu du Saint-Esprit venant à eux. C'est curieux, mais c'est vrai. Mais pourtant, ils disent préférer l'ancien chemin. Celui qui met la main à la charrue et pourtant regarde en arrière, il connaît des ennuis tôt ou tard. Nous devons aller plus loin vers la perfection. Le but est devant nous et vraiment, aucun de nous n'abandonnera. Nous ne sommes pas allés trop loin, oh non. Il y aura une grande récompense pour tous ceux qui auront supporté jusqu'à la fin. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 32, nous dit « Vous serez haïs de tous. » Pourquoi cela ? Mais à cause de mon nom, à cause du nom de Jésus-Christ. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, je répète, celui qui tiendra le coup jusqu'à la fin, celui-là, celle-là, sera sauvé. Alléluia. Quelle réunion ce sera ! Nous serons même réunis à ceux qui sont partis avant nous, que nous aimions, et surtout, la plus grande bénédiction, nous verrons celui qui nous créa tous en lui et nous racheta avec son corps et son sang précieux. Quelle joie de pouvoir enfin voir celui qui nous aime et qui nous a aimés tellement, alors que nous n'étions pas dignes, et je le dis pour moi, d'être aimés par Christ. Mais lui nous racheta pour que nous soyons siens, pour que nous puissions lui appartenir, à lui, le Seigneur Jésus-Christ. En retour, la plus grande action de grâce lui est due. Nous devrions le glorifier avec notre corps, avec notre esprit et avec notre âme. Nous devons amener le peuple de Dieu à la perfection, au moins essayer, et l'aider à revêtir l'habit du salut. Beaucoup ont besoin, comme des enfants, qu'on les aide à se vêtir, car ils ne savent pas comment faire. Nous qui avons appris en écoutant la Sainte Parole, nous savons comment les vêtir. On nous demande de revêtir l'armure de Dieu. Notez Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Il, au pluriel, l'entendent, mais ils ne savent pas comment endosser l'armure. Lorsque vous habitez en quelque lieu et que vous commencez à vous habiller, à habiller votre corps, vous vous habillez aussi en même temps du Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui sont sauvés né de nouveau. C'est le cas. Car dans les Romains, au chapitre 13, la Sainte Bible dit de revêtir quoi ? De revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Romains 13, verset 14, il est dit « Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Je le dis pour moi. Utiliser ce point de contact peut paraître, à premier abord, ça peut paraître insensé. Mais cela est possible, oh oui, j'en ai fait l'expérience. Car sans les actes, la foi meurt. Nous devons être vêtus, un havre durant le temps de la tempête. Nous sommes en train de vivre une période sombre. Nous devons être vêtus. Nous ne devons pas nous trouver nus et honteux. Cette chose triste, elle se lit dans l'Apocalypse. Il dit même qu'ils sont misérables, pitoyables, pauvres et nus. Apocalypse chapitre 3, versets 17 et 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin absolument de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre et nu, je te conseille vivement d'acheter chez moi de l'or pur, de l'or purifié au feu pour t'enrichir, et des vêtements blancs pour te couvrir, et que ne paraisse pas la honte de ta nudité, et un collier pour moindre tes yeux et de recouvrer la vue. Cela s'adresse à toute l'Église. Le message du dernier jour s'adresse à l'Église pour qu'elle se prépare à la rencontre avec Jésus-Christ. Il avait quelque chose à reprocher à chaque groupe. Il insista, le Seigneur, sur le fait de vaincre. Il, Jésus-Christ, a vaincu tout. Il nous dit de nous asseoir à sa droite jusqu'à ce que tous, c'est-à-dire tous nos ennemis surtout, soient devenus des tabourets pour nos pieds, selon une version allemande, et que nous soyons vainqueurs comme il l'était et comme il l'est encore. On nous a donné des maîtres et des guides divins qui détenaient la révélation du Saint-Esprit. Ne soyez pas rebelles, je vous en prie, ainsi que l'a dit Ézéchiel. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Ézéchiel chapitre 2, verset 8. Fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette engeance te rebelle. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. La rébellion est pareil à la sorcellerie. Aussi, la fierté spirituelle n'est pas quelque chose qui va plaire à Dieu, jamais. Penser que l'on est meilleur, simplement de penser que je suis meilleur que les autres, ça, ce n'est pas très bien, c'est même pas bien du tout. Nous avons besoin de ramer ensemble, de s'aider les uns les autres, de prier pour l'un l'autre, de soutenir les faibles. Nous devons prier même pour celui qui nous utilise avec malveillance. Ça existe, hélas. Bénis donc ceux qui te persécutent. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 44. Et c'est difficile pour ceux qui se trouvent dans une situation terrible ces jours-ci, en Irak, où on leur dit « soit vous vous convertissez et devenez des musulmans, ou ça va très mal se passer pour vous, très très mal. » Et moi je vous dis, nous dit la Sainte Bible, malgré tout cela, aimez vos ennemis, très difficile, et priez pour ceux qui vous persécutent, très difficile. Romains 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, et bénissez et ne maudissez pas. Je reconnais personnellement, dans la situation où des milliers de chrétiens se trouvent, ces jours-ci, il y a pas seulement au temps des Romains où on les jetait aux lions, c'est pas mieux aujourd'hui et le pire est à venir. Un frère avait béni les tapis, c'est authentique, écoutez la suite. Il avait béni les meubles, les murs, les rideaux, etc. de l'hôtel dans lequel il allait passer la nuit. Incroyable, mais vrai. Quand est venu le moment de régler sa note, personne n'a pu trouver sa note. Et jusqu'à maintenant, il n'a même pas reçu de facture. Difficile pour un grand nombre entre vous, nous, de croire cela. Mais c'est vrai. Quand tu bénis tes ennemis, tu amasses des charbons ardents sur leur tête. Proverbe 25, versets 21 et 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Romains chapitre 12, verset 20. Voyez-vous, l'ennemi ne veut pas que l'enfant mâle ne vienne au monde. Il sait que ce groupe de gens, revêtus de l'habit du salut de Dieu, ont le pouvoir de le lier pour 1000 ans. C'est donc un danger pour lui qu'il vienne au monde, un danger pour ce petit bébé, futur Jésus-Christ et Sauveur et Seigneur. Lisez l'Apocalypse chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 6. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et la douleur de l'enfantement. Alors un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue, qui balayait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle. C'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Chers amis, sachez que Dieu n'a pas à te tuer pour éventuellement t'amener au ciel. Comme Enoch, il pourrait dire « Viens ici ». Et Enoch s'éleva sans être mort, car il n'avait plu à Dieu. Il trouva la perfection. Genèse, chapitre 5, verset 24. Ayant suivi les voies de Dieu, il disparut. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait simplement enlevé au ciel. Souvenez-vous d'Élie, il monta au ciel debout. Il n'était pas mort pour franchir le seuil. Deux Rois, chapitre 2, verset 11. Tandis qu'ils poursuivaient leur route tout en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans la tempête. L'apôtre Jean n'est peut-être pas mort du tout. Lisez Saint Jean, chapitre 21, versets 22 et 23. Car Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, mais toi, suis-moi. » C'est à partir de cette parole qu'on a répété parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En réalité, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais il lui avait dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Soyez vainqueurs. Pourquoi ne pas avoir la perfection en ce jour? Lui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait alors, il peut le refaire encore bien mieux. Le Saint-Esprit est venu et de plus grandes choses qu'alors vont être réalisées. Le temps est court aussi. Et l'ennemi sait qu'il y a un groupe né de l'Église triomphante qui aura pouvoir sur lui. Il lutte maintenant de toutes ses forces pour les empêcher de venir au monde. Plus on pousse, plus les douleurs du travail se font sentir. Ensuite vient la naissance. Si vous faites chemin dans des conditions difficiles, que vous devez faire face à des choses pénibles, que vous devez traverser des lieux mauvais, alors vous donnerez naissance à ce groupe choisi de personnes. Sans travail, pas de naissance. Nous devons surmonter le moment du travail. Oui, le moment où il faut pousser, ne pas pousser les gens, mais pousser pour mettre au monde. Résistez, tenez bon, tenez-vous-en à ce qu'il vous a appris. C'est le ministère de retour d'Élie, un peuple fort, comme il n'y en a eu aucun avant et même après. Lisez dans Joël sur ce peuple puissant de Dieu, Joël chapitre 2, versets 2 et 5. C'est un jour de ténèbres et d'obscurité. C'est un jour de nuées et de sombres nuages, comme l'aurore se déploie sur les montagnes, un peuple nombreux et puissant, tel qu'on n'en a jamais vu, tel qu'après lui, il n'y en aura plus jamais, jusqu'aux années des générations les plus lointaines. C'est comme un bruit de char bondissant années, on peut dire bondissant sur les sommets des montagnes, c'est ce que je voulais dire. C'est comme le crépitement d'un foyer brûlant qui dévore le chaume. Rappelez-vous du chaume en analogie par rapport à l'or. Comme un peuple puissant qui est rangé en bataille. Vous devriez être sevré spirituellement. Alors apprenez à manger de la viande, à la mâcher avant de l'avaler. Soyez des gens d'âge mûr. Ne vous satisfaisez plus simplement de nourriture de bébé. Allez toujours vers la perfection et croyez ferme en Jésus-Christ. Bien sûr, nous ne deviendrons jamais parfaits comme l'a été et est Jésus-Christ, car nous sommes dans un monde de péché, né par le péché. Quand nous arrivons à un lieu dont nous pouvons dire que nous ne savons rien, alors Dieu peut nous utiliser. Quand nous nous remplissons d'orgueil, au point de penser qu'on ne connaît que nous. Attention, faites place, c'est moi qui arrive. Alors nous sommes dans un état orgueilleux. Nous devons rester humbles devant Dieu comme un petit enfant. Comme un enfant qui attend qu'on lui enseigne. On ne peut enseigner à tout le monde. Certains pensent tout savoir, alors qu'ils ont tellement tort. Moi, je ne sais pratiquement rien. J'ai tout à apprendre. Malheureusement, j'ai attendu à être un âge très avancé, même très, très avancé, pour comprendre tout cela. C'est bien triste et j'en ai honte. Et je n'ai pas peur de vous le dire, de vous le confesser. Être capable de recevoir un enseignement signifie être impatient pour apprendre encore. Qu'importe la personne qui enseigne, ça fait rien. Si c'est quelqu'un un peu de peu recommandable apparemment, on peut recevoir un enseignement de n'importe qui. Si l'on est prêt pour cela, l'orgueil spirituel est un grand péché devant Dieu. Personne n'aurait raison d'adopter une attitude et une pensée hautaine, oui, parce qu'à ce moment-là, quel orgueil. Dieu utilise ceux que l'on compte le moins parmi les hommes et qui ne sont au fait rien à leurs yeux. C'est ce sur quoi il a insisté, je crois, dans Apocalypse chapitre 3, verset 17. Prenez note de cette écriture et étudiez aussi le verset 18 de Die Offenbarung, donc Apocalypse chapitre 3, verset 17 et 18. Parce que tu dis, est-il dit dans ce verset, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es au fond misérable, pitoyable, pauvre et nu, je te conseille, oh oui, je te conseille d'acheter avant que tu ne pourras plus le faire, d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, et des vêtements blancs pour te couvrir et que ne paraisse pas la honte de ta nudité. Et pourquoi pas encore un collier pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. Jésus nous dit d'acheter son or purifié au feu pour nous enrichir et des vêtements blancs pour nous couvrir et que ne paraisse pas la honte de notre nudité. S'il n'avait pas voulu que vous soyez vêtus, pourquoi vous dit-il de vous couvrir? Pourquoi? S'il n'avait pas voulu que vous soyez vêtus, je le répète, pourquoi aurait-il dit cela? Voyez-vous, il veut aussi que vous puissiez prendre en plus un collier pour oindre vos yeux et de recouvrir la vue totale. Oui, à mon grand âge, il est possible que je vais peut-être pas échapper à une certaine opération des yeux, comme la plupart des gens âgés. Pour le moment, je fais confiance au Seigneur. Il permet, par sa grâce et sa bonté, je ne le mérite pas. Et je suis très ému et reconnaissant qu'il permet que je peux boire assez pour pouvoir préparer ses études. Cette parole, elle est bonne. Et chaque fois que vous enseignez comme l'a fait Jésus-Christ, vous serez pas tellement aimé. J'ai atténué la chose, car au fait, il est dit, vous serez haï par l'humanité. Et moi, je vous dis, pas trop aimé. C'est ma façon de dire un peu les choses. Ce n'est pas vous qu'ils haïront au fait, mais ils haïront ce que vous représentez. Nous savons que cette profonde parole est haïe, mais est grande et merveilleuse pour ceux qui ont la foi et qui veulent tout recevoir de ce que Dieu leur a préparé. Il détient tellement de richesses pour son peuple. Il a même dit que nos cœurs n'étaient pas assez grands, surtout le mien, pour recevoir tout ce qu'il nous a préparé. Nous demandons à tous de garder leur esprit ouvert et d'être prêts à recevoir n'importe quoi de lui. Ce sera peut-être différent de ce que vous pensiez. Il a même dit que ses pensées étaient plus grandes que les nôtres, que ses chemins étaient plus hauts que les nôtres. Ésaïe chapitre 55, verset 9. C'est que les cieux sont hauts, c'est vrai, par rapport à la terre. Ainsi, mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées. Nous devons donc suivre son chemin et non pas le nôtre. Nous devons changer nos esprits et adopter l'Esprit Saint du Christ. Le Seigneur a même dit qu'il accomplirait une œuvre de notre vivant. Donc, pendant que je vous parle, que vous ne croiriez pas si quelqu'un vous le racontait. Et selon les Actes, chapitre 13, verset 41, on le lit aussi, je crois, dans le livre de Habacuc. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 41. Regardez-vous les arrogants. C'est ce qui est dit. Regardez-vous, vous les arrogants. Soyez frappés de stupeur et disparaissez. Je vais en effet, de votre vivant même, accomplir une œuvre que vous ne croiriez pas si quelqu'un vous la racontait. Habakkuk, chapitre 1, verset 5. Voyez le spectacle parmi les nations. Soyez pris de saisissement, car dès maintenant, quelqu'un passe aux actes et vous n'y prêtez pas foi quand on vous le rapporte. Il vous fera paître dans un bon pâturage. Gloire à Dieu. Oui, oui, l'ennemi, il est trompeur. Et l'homme nous en a appris beaucoup pendant si longtemps. Alors que nous devons laisser le Saint-Esprit nous enseigner grâce à son esprit qui est bon. Il est notre premier maître. Il vous guide dans la bonne direction et ne vous trompera jamais. Il vous fera paître dans un bon pâturage où pousse une herbe grasse et où vous grandirez en lui jusqu'à votre maturité. Il se soucie de vous, le Seigneur, comme les parents se soucient de leurs enfants. C'est pas beau cela? Il désire le Seigneur. Il désire pour vous ce qu'il peut faire de mieux. S'il se soucie d'un simple moineau, combien plus vous devez valoir à ses yeux? Saint Luc chapitre 12, versets 6 et 7. Et ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous. Pourtant, pas un d'entre eux n'est oublié de Dieu. Soyez donc sans crainte, vous valez beaucoup mieux que tous les moineaux. Il a racheté votre héritage pour vous. Ne laissez personne vous escroquer cela. Il affirma, je crois qu'il a affirmé, ne laisse personne te prendre ta couronne. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Et il a dit, je viens bientôt, tiens donc ferme ce que tu as, pour que nul ne te prenne ta couronne. Comme le dit l'Écriture sainte, il vous faut conquérir la vie éternelle. Timothée, chapitre 1, verset 6. Non, 1 Timothée, je l'ai dit à l'envers. 1 Timothée, et notez le chapitre 6, et notez le verset 12 et le verset 19. D'accord? Combat. Le bon combat ou le beau combat de la foi conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, comme tu l'as reconnu dans une belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Ainsi amasseront-ils pour eux-mêmes un bel et solide trésor pour l'avenir, afin d'obtenir la vie véritable, la vie éternelle. Chers amis, approchez-vous à ce que vous a appris Jésus-Christ. Il dit aussi que si tout homme est en Christ, cherchez ce qui est au-dessus et pas au-dessous. Il rend toute chose nouvelle. Ce qui est nouveau n'est pas ancien. Ces choses neuves commencent pour une vie nouvelle. Toutes choses, pas seulement quelques-unes, mais toutes les choses redeviennent nouvelles. Si vous êtes encore malade ou même fatigué, ça m'arrive à un grand âge, c'est que tout n'est pas redevenu totalement nouveau. Tout est nouveau quand on peut dire que toutes les choses sont redevenues nouvelles. Nous avons besoin d'espérer que l'inhabituel, l'inconnu puisse apparaître. Il veut faire se manifester des nouveautés. Il, Jésus-Christ, votre Sauveur et Seigneur, désire que de nouveaux canaux soient ouverts. L'Esprit a besoin de l'Esprit Saint du Christ dans son entier. L'homme a un tel besoin de Jésus-Christ. Lui, le Seigneur, veut que nous plongions tête première en lui et ne pas en émerger. Il est la vérité, le chemin et la vie. N'oubliez jamais cela. Nous lui appartenons pour toujours. Répétez avec moi. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis son œuvre. Je suis à lui pour l'éternité. Je lui appartiens. Et je ne veux plus rien savoir de l'ennemi qui m'en a empêché pendant des années. Il n'y a aucun défaut en Jésus-Christ, car il est infaillible. Il n'est que perfection et il fait de l'obscurité, il la change en lumière. Il corrige les erreurs, les miennes, mais aussi les vôtres. Il ne se révèle que dans la lumière véritable. Par la prière et le jeûne, nous sommes encore plus révélés de l'Esprit Saint, du baptême achevé, dans le Saint-Esprit et le feu. Et c'est ce qu'on a abandonné dans de nombreuses églises charismatiques de nos jours. La plupart n'en connaissent rien du tout. Peu de paroisses commencent même à enseigner le feu du Saint-Esprit. Mais ça commence. Ce ne sont pas des émotions, comme vous croyez, ni des manifestations qui viennent que de notre corps. Non, non, non. C'est la véritable infusion du Saint-Esprit et du feu qui couve au-dessus de notre être pour que la maladie et la fatigue n'atteignent plus notre corps. Je suis des fois assez fatigué et... Je me dis des fois, je n'en peux plus. Mon ami, la pasteur Reichenbach, sait, puisque son papa, qui avait mon âge, ne pouvait plus s'inscrire aux Jeux Olympiques. Et moi non plus. Avec le canal lombaire coincé, ça fait très, très mal. Ça remet en quelque sorte... on peut dire la maison au milieu du village. Il y a de l'énergie pour le peuple de Dieu. Il y a là une possibilité d'être renouvelé, car il est dit, il prendra de l'envergure comme les aigles. C'est pas mal. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur retrempent leur énergie, ils prennent de l'envergure comme des aigles, ils s'élancent et ne se fatiguent pas, ils avancent et ne faiblissent pas. Souvent la famille, elle est attaquée en son sein, et nos familles ont besoin de Dieu. Quand l'Église enseigne comme le veut la sainte parole de Dieu, la vérité vraie, la sainteté est le modèle de Dieu, et la sainteté va devenir le modèle de Dieu, et cela aide notre pays, aide la famille à retremper leur énergie. La parole de Dieu dit de prendre modèle sur Sion, la cité de Dieu, une terre de pureté, oui, toute perfection. Bien sûr que l'ennemi dit, c'est Israël la faute de tout. C'est eux qui nous attaquent, c'est eux qui détruisent nos bâtiments. Mais personne veut dire la vérité et de dire que si, supposons, moi qui suis suisse-allemand, eh bien, supposons que les Suisses-Allemands enverraient des pétards sur Lausanne, Genève, etc. Genève et Lausanne auraient le droit de se défendre, me semble-t-il. Mais on n'en parle pas de ça. On parle seulement d'Israël qui fait des choses épouvantables et ils devront être jugés mondialement, sinon peut-être même abattus, va savoir. Mais on ne parle pas de ceux qui envoient des pétards, qui recommencent sans arrêt et qui voudraient même effacer Israël pour qu'il n'y ait plus jamais un seul juif sur la terre. Il y en a qui ont dit, il faudrait les noyer dans la mer morte pour qu'on n'en parle plus jamais. Oui, ne pensons pas seulement aux œuvres de l'ombre, mais aux œuvres de la lumière. La complète dévotion à notre Seigneur Jésus-Christ est importante. Abandonnez-vous donc à lui. Si vous devez marcher seul, faites-le. Si vous êtes le seul dans votre famille, restez intègre. Dieu a dit, un agneau par famille. Vous représentez le Christ, Dieu le voit. Il y a un livre de la mémoire aussi, c'est le livre de la vie, et il vous a gravé dans la paume de ses mains. Ésaïe 49, verset 16. Voici que sur mes paumes, je t'ai gravé, que tes murailles sont constamment sous ma vue. Aucun homme ne peut vous arracher de la paume de la main de notre Père. Vous êtes la race élue, le peuple que Dieu s'est acquis. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Mais vous êtes la race élue, vous êtes la communauté sacerdotale du roi, vous êtes la nation sainte, vous êtes le peuple que Dieu s'est acquis pour que vous proclamiez les hauts faits de celui-ci qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car Ésaïe 61, verset 10 nous dit, « Je suis enthousiaste, oui, enthousiasmé à cause du Seigneur, et mon âme exulte à cause de mon Dieu, car il m'a revêtu de l'habit du salut, il m'a drapé dans le manteau de la justice, tel un fiancé qui porte le diadème, tel une promise qui se pare de ses atours. La promise aussi s'est préparée. » Apocalypse chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car voici les noces de l'agneau, son épouse s'est préparée. Vous voici, chers amis, maintenant dans la grande, on peut dire, je voudrais dire dans la garde-robe, voilà. Nous sommes donc revêtus par les parures, puisque nous sommes maintenant dans la garde-robe, je dis ça pour les sœurs, revêtez donc les parures de mariage, car le temps est venu de revêtir Jésus-Christ, notre Sauveur. Jean-Baptiste vous a dit qu'il était à la recherche de celui qui avait le vrai baptême et avait le feu. Saint Matthieu chapitre 3 verset 11. Et moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient après moi est plus fort, plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne d'ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et de feu. Saint Luc chapitre 3 verset 16. Et Jean le Baptiste a répondu à tous, moi, c'est d'eau que je vous baptise, mais il vient celui qui est beaucoup plus fort, plus puissant que moi, et je ne suis pas digne même de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et de feu. Chers amis, ne restez pas à la source, mais plongez dans les profondeurs. Vous êtes appelés loin de la foule pour aller en paix devant Dieu, pour entrer dans le lieu secret en lui et de vous isoler avec lui. La foule ne connaîtra pas la profondeur de Dieu. Ils sont beaucoup trop charnels. Or, être spirituel, c'est la vie et la paix. Écoutez-le. Il vous invite à rejoindre le courant profond. Ne restez pas à la surface, mais plongez dans les profondeurs. N'ayez aucune crainte. Cela est juste. Et cela vous appartient en plénitude. Ne vous laissez pas surprendre nu, mais revêtez-vous de Jésus-Christ. Découvrez ce que dit le petit livre. Cherchez-le. Il vous faut le savoir. Nous vous invitons, chères sœurs et chers frères, à vous engager dans la profondeur de Dieu. Le rôle qui vous aidera à résister, ayant fait ce qu'il faut pour résister dans ce jour sombre. Ainsi, prenez le petit livre, mangez-le, emplissez vos entrailles avec la sainte parole vivante de Dieu. Le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir. Vous fera ressouvenir, si je traduis cela de l'allemand, c'est « il me fera rappeler tout ce que j'ai oublié et tout ce que le Seigneur vous a dit. » Saint Jean, chapitre 14, verset 26. Nous allons terminer par la prière. Prions ensemble maintenant. Yahvé l'Éternel, majesté du ciel et de la terre, je vous demande que par le précieux sang versé de votre Fils Jésus-Christ, je puisse maintenant être purifié et sanctifié dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Jésus-Christ, permets, je t'en supplie, que ce ne soit plus mon âme et mon corps charnel qui dirige et qui décide de ma vie, mais que ce soit toi seul, par la puissance du Saint-Esprit sur mon esprit, qui décide et qui dirige ma vie toute entière. Je le demande sincèrement, en ton saint nom. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Et chers amis, à demain matin, Dieu voulant. Non, demain matin, je dois faire les commissions pour toute la semaine. Bon, alors ce sera, si ce n'est pas l'après-midi, ce sera dimanche matin pour la suite. Oh, il y a des choses phénoménales encore sur ce thème du salut. Phénoménaux, est-ce qu'on dit phénoménaux ou phénoménal? Corrigez vous-même, puisque surtout ceux qui sont de langue française. À bientôt. Au revoir.